BFM Business et CB News présentent Hebdo.com avec Aurélie Planex.
Bonjour à tous, bienvenue dans Hebdo.com sur BFM Business. Aujourd'hui, on sera avec Christelle Delarue, la fondatrice de l'agence Mad & Women, agence de pub engagée pour le droit des femmes. On s'intéressera aux problématiques de l'adtech avec Mathias Moulin de la CNIL et Alexandra Chiaramonti, directrice générale de Timo France. Et puis en fin d'émission, rencontre avec Marie-Ève Saint-Cierge-Lovy, directeur marketing du groupe Apicil. Hebdo.com, ça commence tout de suite avec les news.
BFM Business, Hebdo.com, les news.
Et comme chaque semaine, on retrouve Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News. Bonjour Frédéric.
Bonjour Aurélie.
Et bonjour Marie Valogne pour les news.
Bonjour Aurélie.
Alors Marie, on commence avec une marque de soupe bio qui s'appelle Les Recettes de la ferme d'Anchin et qui fait honneur aux légumes dans sa dernière campagne.
Et oui, et la marque prend la parole pour la première fois et nous raconte l'histoire de Louise Asperge et Samuel Poirot, deux personnes qui ont du mal à porter leur nom, sauf qu'aujourd'hui, ils peuvent en être fiers puisque la marque organise un jeu concours pour tous ceux qui ont un nom de légumes et les 100 premiers participants gagneront une soupe bio.
Louise Asperge, née le 14 juillet 1982 à Champigny-sur-Marne. Asperge, asperge, ou la grande asperge. Voilà ce que Louise a entendu toute son enfance. Ah, son enfance. Pas facile de s'appeler Asperge quand on mesure 1m74 à seulement 13 ans. Au collège, Louise encaissait les blagues. Et en secret, elle enviait ses petits camarades et leurs noms si normaux. Dubois, Dupuis, Durand. Bon sang, quel pied de s'appeler Durand. À cette époque, Louise aurait tout donné pour naître avec un autre nom. Mais aujourd'hui, elle n'en changerait pour rien au monde.
Et la campagne est imaginée par CLM BBDO.
Et puis à l'occasion des commémorations du 11 novembre, le musée de la Grande Guerre organise en ce moment une campagne Gare de l'Est à Paris. C'est justement une gare, Marie, qui avait vu partir des hommes au front pour la guerre 14-18.
Et un lit authentique de 1914 a été installé dans la gare. Des casques ont été placés juste à côté pour pouvoir écouter l'histoire de ce lit. Le lit d'un couple, Louise et Auguste, séparés pendant la guerre. Pendant 4 minutes, le comédien Thibaut de Montalembert prête sa voix à ce lit.
Grand pour Louise et pour Auguste, qu'on venait de marier à l'église, pour accueillir ces deux corps aussi jeunes qu'impatients, pour contenir tout leur amour. Mais il faut croire que le ciel avait d'autres desseins. Peu importe que les grands-parents l'aient imploré, aucune de leurs prières n'a enrayé le cours des événements. Aucun autre père n'a stoppé le train qui emmenait Auguste au loin, comme des millions d'autres hommes arrachés à leur vie de chaque côté du Rhin. Et moi, je suis demeuré seul avec Louise, dans le silence des nuits, à éponger ses larmes sans bruit sur l'oreiller, à la soutenir de mon mieux, sur mon large sommier, à compter les heures et les minutes sans lui.
Une campagne émouvante signée par DDB Paris, la SNCF et la régie Média Transport et qui s'accompagne d'une exposition à 30 minutes de la gare nommée « Famille à l'épreuve de la guerre ». Elle est ouverte jusqu'au 2 décembre au Musée de la Grande Guerre.
Marie, effectivement, vous venez nous plomber l'ambiance, mais en même temps, Frédéric, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même très très bien fait.
C'est très bien fait.
C'est simple et efficace.
Absolument. C'est l'agence DDB qui a réalisé cette campagne, a déjà beaucoup travaillé sur la Grande Guerre avec le musée de la Grande Guerre de Meaux. Ils avaient notamment inventé, je sais pas si vous vous souvenez, un personnage Facebook qui partait à la guerre. Voilà. Ouais. Bah là, ça doit être la fin. Hein.
Absolument, je crois que là, on ne peut pas mieux résumer. Voilà. Bon, et puis dans l'actualité aussi cette semaine, ça ne vous aura pas échappé, Frédéric, les midterms aux États-Unis et les grands gagnants de ces élections, ce sont Google, Facebook, Twitter.
Et les montants investis en publicité politique sur Internet ont bondi à l'occasion des midterms, et ce, malgré les polémiques. 20% de l'ensemble des dépenses publicitaires de campagne ont été faites sur Internet, ce qui représente 900 millions de dollars selon Kantar. C'est presque 4 fois plus que lors des précédentes midterms en 2014. Et le grand gagnant, c'est Facebook. Le réseau social a récolté à lui seul plus de 350 millions de dollars grâce à sa capacité de ciblage.
Merci Marie pour ces infos. On va passer à l'invité de la semaine.
BFM Business, Hebdo.com, L'invité.
Avec Christelle Delarue, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondatrice de l'agence Mad and Women, agence de pub engagée pour le droit des femmes. Moi, j'aimerais comprendre d'abord qu'est-ce qui a motivé ce positionnement.
Ah, c'était il y a 6 ans. La motivation de ce positionnement, elle est très simple. C'est la potentialité d'ouvrir d'autres champs narratifs et d'autres champs créatifs en représentant les femmes autrement dans l'industrie des images.
Et ça vous empêche pas de faire certains deals? Je veux dire, tout le monde n'est pas forcé d'adhérer à une cause quand on choisit une agence de pub. C'est pas forcément peut-être le premier critère?
C'est pas forcément le premier critère. Après, moi, j'aime être engagée dans mon travail et j'aime aussi les gens qui s'engagent derrière des images. Il y a aussi un sens, des mots, une représentation et une logique commerciale. Et quand on peut permettre à cette logique commerciale de bouger des curseurs sociaux, je trouve que ça participe à une économie sociétale.
Et là, vous lancez une campagne sur l'égalité salariale. Donc, quel est le message et quel est le propos spécifique?
Alors en fait, ouais, ça fait 3 ans que nous accompagnons la newsletter des Glorieuses. C'est un collectif féministe qui est incubé à l'agence. Et depuis 3 ans, avec une étude Eurostat, une étude très sérieuse, qui pointe du doigt la différence salariale, on peut voir, quand on ramène le taux horaire à l'année, que le 6 novembre, à 15h35, en France, en 2018, les femmes sont payées 15,2% de moins que les hommes à poste équivalent. Il y a 3 ans, on était à 15,7%, donc on peut se dire qu'on a gagné 0,5 points. Donc c'est pas assez. On devrait atteindre l'égalité salariale dans 150 ans à ce rythme-là. Du coup, nous avons décidé d'agir. Agir avec le collectif, agir avec une étude Ipsos, agir avec d'autres associations et en proposant des choses très simples, des choses qui ont fait sens dans d'autres pays, en Islande, en Suède. L'égalité salariale est respectée. Donc on a proposé 3 mesures au gouvernement il y a 2 ans. Et cette année, on est allé un petit peu plus loin en proposant de signer une pétition, de calculer son salaire pour voir la différence qu'on avait entre un homme et une femme. Et les 3 mesures qu'on propose, c'est la création d'un certificat égalitaire pour les entreprises. Et les Français le plébiscitent à 63%. La transparence des salaires. C'est une forme aussi d'ouverture, d'honnêteté que l'on peut faire dans l'entreprise et 73% des Français sont d'accord. Et puis quelque chose de très important pour les droits des femmes et aussi pour l'égalité femmes-hommes, puisque c'est la grande cause du quinquennat, c'est le congé parental égal entre les hommes et les femmes sur la même durée.
Pardon, je vais me faire l'avocat du diable, mais c'est le rôle d'une agence de pub de proposer ça?
C'est le rôle de Mad and Women, derrière une communication externe, derrière des images, derrière la publicité, on engage des entreprises. Et l'empreinte d'une marque, c'est aussi la force d'une entreprise qui est dans son écosystème sociétal, social et politique, qui accompagne des salariés. Et lorsqu'on représente des femmes de manière non stéréotypée, on peut aussi ouvrir le champ des possibles, je dirais, à l'interne sur des logiques d'égalité femmes-hommes, de promotion des femmes, de transparence des salaires, de congé parental, égalité. Pourquoi pas aussi de lutte contre les discriminations, de compréhension des logiques LGBT. Voilà, il y a plein de sujets comme ça qui intéressent aujourd'hui les Français. Et les entreprises peuvent avoir un rôle à jouer lorsqu'elles ont la puissance d'une marque.
Frédéric.
Alors, vous avez, avant de créer Mad and Women, beaucoup travaillé dans d'autres agences de pub, chez TBWA, Buzzman, Marcel, etc. Qu'est-ce qu'il en est, selon vous, justement, de l'égalité ou de la non-égalité dans la publicité en général?
Alors, il y a les images, l'industrie des images, où il y a évidemment encore beaucoup de publicité stéréotypée, objectivant les femmes, où les femmes sont encore objets sexuels, fantasmes, etc. Donc, c'est vrai que en France, malheureusement, il y a encore des publicités sexistes. L'année dernière, 2 jours avant la journée des droits des femmes, il y avait une publicité pour Saint-Laurent qui montrait une femme cassée en deux au sol. Donc elle a reçu 2000 plaintes, elle a été retirée et les réseaux sociaux s'en sont emparés de manière très importante. Dans les agences de publicité, ce qu'on voit, c'est que post-MeToo, Il y a une compréhension des enjeux de représentation des femmes et des hommes et des clichés qui sont des clichés, des enjeux de sexualisation, de relations justement à une certaine forme de domination qui doivent être revues. Il y a des entreprises qui font et un travail à l'interne et un travail à l'externe, et donc c'est ça qu'on parvient à accompagner. Dans les agences de publicité, il y a malheureusement pas assez de femmes directrices de création. Il y a que 11% dans le monde de femmes directrices de création. Donc nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut aussi une parité. Alors ça va pas se faire du jour au lendemain, certes, mais il faut accompagner cette transition-là pour que il y ait autant de femmes et d'hommes à la tête des idées dans le monde pour faire avancer les logiques des stéréotypes, avoir des stéréotypes positifs et pas les stéréotypes dépréciatifs. Et tout ça, c'est un enjeu, c'est un mouvement de balancier qui prend du temps. Malheureusement, toutes les agences ne sont pas n'appliquent pas l'égalité salariale, toutes les agences n'appliquent pas le congé parental, et toutes les agences n'ont pas beaucoup de femmes à la tête de la direction de création. Donc pour nous, si elles ne sont pas à la table des négos, elles sont plutôt au menu.
Est-ce que c'est plus facile aujourd'hui de faire avancer les causes que vous promouvez, vous, dans un contexte où on en parle souvent avec Frédéric sur ce plateau? Finalement, les marques sont de plus en plus attendues comme étant porteuses de valeurs, et si elles n'ont pas de valeurs, finalement, leur message n'est plus entendu par les consommateurs. Est-ce que le contexte change un peu et vous aide?
Oui. Le contexte global sur l'utilité, la responsabilité des entreprises, post-crise, post-années 80, 90 et toutes les crises que l'on a eues, on recherche beaucoup de sens. Et post-MeToo, je dirais, parce que l'agence est née il y a 6 ans, depuis MeToo, évidemment, il y a encore plus le besoin de positionner des équilibres marque-entreprise qui soient parfaitement justes, au-delà de l'utilité commerciale, bien au-delà. On sait qu'une entreprise avec un ou deux tweets mal intentionnés peut perdre aujourd'hui beaucoup sur son marché en bourse, donc c'est très important. Derrière, il faut pas non plus tomber dans une forme de moralisation et ne plus vouloir faire d'humour et ne plus vouloir faire de créativité, non. La créativité, quand elle est au service d'un progrès, d'une innovation, elle est juste, et tout le monde s'attache derrière cette idée-là. Donc il faut rester créatif. Après, il faut penser son champ lexical créatif, il faut le faire évoluer, il faut pas rester sur les mêmes formes, il faut s'ouvrir, il faut regarder les mutations sociodémographiques, la façon dont les femmes se battent au quotidien. Et tout ça, c'est des signaux qui étaient peut-être faibles il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, qui sont des signaux forts et qui sont les attentes des consommateurs.
Je vous arrête, on est au bout. Merci beaucoup, Christelle Delarue, fondatrice de l'agence Mad & Women.
Professionnels de la communication, inspirez-vous des plus belles opérations de mailing avec La Poste Solution Business.
BFM Business, Hebdo.com, l'édito.
Avec Simon Tenenbaum cette semaine de la rédaction de BFM Business. Bonjour Simon.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, vous nous parlez des startups de la pub et du marketing en ligne qui ont de plus en plus de mal à lever les fonds. Et vous dites que c'est notamment une des conséquences de la mise en place du RGPD.
Oui, c'est un véritable assèchement qui guette les startups du marketing de la pub en ligne sur Internet. De plus de 7 milliards de dollars levés cette année. Les levées de fonds devraient tomber à moins de 2 milliards l'an prochain, selon le cabinet Forrester, une baisse de 75%. Alors première raison, effectivement, le règlement européen sur les données qui a jeté une ombre sur le secteur. On en est encore dans une phase d'apprentissage. Les conséquences concrètes du RGPD sur les business models de la pub en ligne commencent seulement à se faire sentir, mais on voit déjà que des startups se font épingler, notamment en France par la CNIL, avec une quatrième startup qui a été mise en demeure cette semaine. En attendant, les annonceurs, les investisseurs sont forcément plus prudents, d'autant qu'aux États-Unis aussi, on réfléchit à toute cette problématique des données, on envisage aussi une régulation, et on voit que des groupes bien plus installés de la tech, on pense évidemment à Criteo, un groupe solide, mais qui a aussi des difficultés, forcément ça ne peut pas envoyer un signe positif sur ce secteur. Et c'est pas tout, d'ailleurs. Il y a d'autres raisons. Il n'y a pas que le RGPD. Il y a aussi l'ultra-domination de Facebook et Google sur le marché. Les nouveaux entrants ont de moins en moins de place pour essayer d'émerger. Et même à côté des GAFA, on constate que le secteur est plutôt, voilà, dans la phase après les levées de fonds, dans la phase consolidation avec des grandes opérations. On pense à Tids, on pense à AppNexus qui se font racheter soit par des opérateurs télécoms, soit par des grands groupes publics. publicitaire ou informatique. Pour les auteurs de l'étude, le recul des levées de fonds correspond effectivement à cette forme de maturité du marché qui a besoin de se rationaliser. On met en pause le cycle des innovations et c'est une opportunité pour les publicitaires de faire le tri peut-être et de se concentrer sur les technologies qui font déjà leurs preuves.
Mais pour autant, toutes les athlètes qui ne sont pas à mettre dans le même panier.
Oui, tout le secteur de la pub ne sera pas concerné par ce retrait des investisseurs, selon Forrester. Justement, dans ce contexte de défiance, les technologies centrées sur le retour sur investissement, les technologies qui permettent de nettoyer l'écosystème de la pub en ligne ont encore des chances d'attirer les publicitaires et donc les investisseurs. On pense aussi à la pub sur les enceintes connectées ou la pub ciblée à la télévision. Là, ce sont plutôt des nouveaux territoires qu'il faut encore défricher.
Merci Simon Tenenbaum. Justement, on va continuer à parler d'AdTech tout de suite.
BFM Business, Hebdo.com, le Zoom.
On va poursuivre la discussion qu'on avait avec Simon il y a un instant autour de l'AdTech avec Mathias Moulin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la protection des droits et des sanctions à la CNIL. Et puis Alexandra Chiaramonti, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice générale de Timo France, plateforme de marketing mobile Drive to Store. En quelques mots, que fait Timo déjà, qu'on comprenne?
Alors, Timo utilise des données de géolocalisation pour proposer des offres personnalisées aux mobinautes par rapport à leur comportement physique.
D'accord. Et donc, vous avez été mis en demeure en juillet dernier par la CNIL. Mathias Moulin, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous reprochiez à l'application?
Alors, on a fait des contrôles. On fait des contrôles sur place et ensuite, on a fait des constatations. Et ce qu'on reprochait, avant tout, c'était un défaut de consentement à la publicité ciblée et des défauts sur l'information et aussi sur les durées de conservation. Et globalement, le principal manquement, c'était sur un défaut du recueil du consentement. Pour voir qu'on vous adresse de la publicité ciblée, il faut recueillir votre consentement dans l'univers mobile qui est surtout lorsqu'il s'agit de données géolocalisées, puisqu'on était sur des traitements assez massifs, c'est des millions de données qui sont brassées tous les jours avec de la géolocalisation, donc on est sur du ciblage assez intrusif, ça doit reposer sur le consentement des personnes et c'est ce qu'on a demandé.
Frédéric.
Et c'est ce que vous avez fait donc.
Complètement.
D'accord. Moi, ce qui m'épate un peu dans cette histoire et dans tout ce qui vient d'arriver, puisqu'on en a eu encore une cette semaine, c'est que depuis le RGPD, on en parle depuis longtemps, qu'est-ce qui se passe pour qu'une société aussi évoluée que la vôtre se fasse quand même prendre dans le radar?
C'est une très bonne question et c'est légitime. La loi définit des conditions assez larges et finalement on avait besoin de précision, donc on avait échangé justement avec Monsieur Moulin et ses services sur comment on peut le mettre en pratique de manière très précise, donc quelle terminologie on va utiliser, comment doit-on demander le consentement, est-ce qu'on peut déjà précocher une case ou pas. Sous ce genre de choses qui sont des subtilités, évidemment que la loi ne rentrait pas dans ce niveau de détail. Et finalement, la mise en demeure et cette sortie de mise en demeure a permis de rentrer dans ce détail grâce aux multiples échanges qu'on a pu avoir avec la CNIL et du coup de préciser exactement comment le mettre en pratique et pouvoir nous aussi être force de proposition auprès des éditeurs qui sont ceux qui recueillent le consentement pour notre technologie.
Moi, je regardais aussi, comme disait Frédéric, je crois qu'il y a trois autres startups qui ont été mises en demeure jusqu'à présent. Vous faites des enquêtes, je crois, sur une dizaine d'autres. En fait, j'ai l'impression que c'est quand même plus facile, si on est né post-RGPD, d'intégrer tout ça, que quand on est né avant. Et au final, il faut faire des modifications auxquelles on n'avait pas pensé quand on a créé sa startup.
Alors, non, parce qu'en fait, les principes, ils sont assez robustes et ils sont assez anciens. Le recueil du consentement et l'obligation de recueillir le consentement en matière de prospection dans les univers mobiles, en ligne, et ainsi de suite, ce sont des principes qui existent depuis les années 2000, 2002. Donc, après, la déclinaison opérationnelle peut poser des questions, en fonction aussi des nouvelles technologies, des nouveaux usages, nécessiter effectivement d'être clarifié et avoir ce besoin d'échange. Mais sur les principes fondamentaux qui sont le recueil du consentement qui doit être informé, libre, spécifique, la façon, les informations qu'on doit pousser à la personne sur l'information, c'est qui traite les données, pour quelle finalité, le fait que vous avez des droits, vous pouvez vous opposer, vous pouvez accéder aux données. Tout ça, c'est assez robuste et c'est ancien.
Et pourquoi on n'a pas eu de mise en demeure plus tôt, alors? Si, il y en a eu.
Alors, il y en a eu sur d'autres acteurs, sur d'autres sujets. Il se trouve que sur la question du géomarketing via les SDK, donc la publicité ciblée via cette technologie, on n'en avait pas eu. On n'avait pas fait encore de contrôle. C'est des technologies assez innovantes et assez récentes. Donc les principes sont robustes, sont assez anciens. Après, la concrétisation et les usages sont assez nouveaux. Donc c'est ça, après, c'est toujours...
Justement, Alexandra Chiaramonti, le SDK, le kit de développement, comment ça fonctionne concrètement?
Alors tout simplement, c'est un bout de code que des applications partenaires vont intégrer. Donc c'est quand vous avez des mises à jour par exemple sur vos téléphones, oui. En général c'est qu'on a intégré des SDK. Ce SDK ensuite vient se loger dans le système d'opération du téléphone et permet de collecter, en tout cas pour notre métier, nous on collecte uniquement la géolocalisation.
D'accord.
Mais ce SDK, on peut lui faire faire ce qu'on le souhaite.
Donc en fait, concrètement, si moi j'ouvre une appli tierce,
oui.
Vous, ça vous permet de récolter mes données à moi de géolocalisation, même si je suis pas sur votre application.
Enfin, nous, on n'a pas d'application, on a justement une technologie. Tout à fait.
Voilà, c'est ça.
Nous, on édite le SDK justement. On a des applications partenaires qui intègrent ce SDK. Et effectivement, si vous avez installé une application dans laquelle nous sommes intégrés également, que vous avez bien évidemment donné votre consentement, on va pouvoir par la suite collecter votre géolocalisation.
Très bien.
Alors, par rapport à vos clients, quand vous retournez vers vos clients, est-ce que ce RGPD, dont on parle donc depuis fort longtemps, qui répond à des problématiques extrêmement identifiées dans la société, est-ce que finalement, quelque chose comme cette mise en demeure vous a permis de mieux expliquer à vos clients quelle était la question ? Est-ce qu'il n'y a pas un bien pour un mal, si on peut dire ?
Oui, complètement. C'est-à-dire qu'effectivement, on a eu la malchance d'être les premiers épinglés, mais la chance d'être les premiers à du coup avoir une levée de mise en demeure. Ce qui nous permet effectivement d'avoir une mission d'éducation du marché. Quand on parle de clients, je tiens à préciser, parce qu'on travaille avec des annonceurs, des agences, mais là, c'est surtout le sujet éditeur, puisque ce sont les éditeurs qui vont intégrer la bannière de consentement et intégrer notre technologie. Donc effectivement, on a repris très fortement les discussions avec les éditeurs, et effectivement, beaucoup des conversations sont autour du consentement, de cette bannière, effectivement, de la façon dont on collecte la data, des durées de conservation, etc. Et donc, on prend aussi cette mission d'éducation du marché très au sérieux.
Merci beaucoup, parce que c'était très clair et on en avait tous besoin de ces explications. Alexandra Chiaramonti, directrice générale de Timo France, et Mathias Moulin, directeur de la protection des droits et des sanctions à la CNIL.
BFM Business, Hebdo.com, Solutions Mailing.
Avec aujourd'hui Marie-Ève Saint-Cyr-Gelovy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur marketing du groupe Apicil, groupe de protection sociale. Vous venez nous parler aujourd'hui d'une opération mailing que vous avez réalisée à destination des PME. Quel était l'objectif initial ?
Alors, le groupe Apicil, c'est un groupe de protection sociale. Donc, nous commercialisons des solutions d'assurance en santé, prévoyance, épargne et retraite. Et donc, essentiellement sur du marché B2B, pas uniquement, mais beaucoup sur le marché B2B. Et effectivement, sur ces marchés-là, nos cibles sont les DRH et les DAF. En l'occurrence, là, c'était une campagne d'épargne retraite, donc c'était les DAF. Donc, c'est des cibles qui sont hyper sollicitées, qui sont difficiles à capter. Et donc, l'objectif de nos campagnes, c'est de créer un déclencheur auprès de cette cible pour faciliter la prise de rendez-vous ensuite pour nos commerciaux.
Alors, qu'est-ce que vous leur avez envoyé ?
Alors, comme c'était de l'épargne retraite en entreprise, c'est pas un produit hyper glamour, vous en conviendrez, et qu'on est sur un marché où il est très difficile de se différencier par le produit, puisqu'on est sur un marché où les produits sont extrêmement réglementés. Du coup, il faut absolument qu'on se différencie à travers nos messages, notre communication, et un de nos facteurs de différenciation, celui sur lequel on base beaucoup, c'est la qualité de la relation avec nos conseillers. Donc, du coup, il faut absolument qu'on arrive à trouver un moyen, finalement, de mettre un pied dans la porte pour rentrer dans l'entreprise, pour que nos commerciaux entrent en contact avec leur cible. Donc, pour l'épargne, on est parti d'une analogie assez classique entre le jardinier qui plante une graine et qui récolte sa semence plus tard, avec l'épargne qu'on va semer aujourd'hui pour récolter demain.
D'accord.
Alors, c'est assez classique, cette analogie en B2C, mais là, on est en B2B, et c'est un peu ce qui est original, puisque du coup on s'adresse quand même à des DRH et des DAF, et donc l'analogie avec le jardinage est déjà moins courant. Et puis surtout, on a décidé dans notre campagne de les engager, de faire en sorte qu'ils fassent quelque chose. Donc on a fait une campagne en deux temps. Sur le premier temps, on leur a envoyé un mailing accompagné d'un crayon à planter.
Donc, on plante le crayon et qu'est-ce qui pousse à la fin?
Eh bien, un tournesol. Un magnifique tournesol. Après quelques semaines, quelques jours, on a des beaux spécimens au bureau puisque les collaborateurs chez nous, finalement, ont voulu tester leur main verte. Donc, on a des tournesols d'une belle taille maintenant. Et du coup, ça a été suffisamment surprenant, en fait, pour que les gens à qui on avait adressé cette communication, quand on leur demande s'ils ont eu la curiosité de planter le crayon, 70% répondent que oui. Donc je ne sais pas si maintenant dans toutes les entreprises il y a des tournesols, mais en tout cas
faites voilà. Tous le tour de vos bureaux pour aller vérifier.
Exactement. Donc ça c'était le temps 1. Ensuite bien sûr on met en place tous les dispositifs, tous les leviers de communication traditionnels, la relance téléphonique, l'email, l'envoi de vidéos pédagogiques. Le mailing n'est jamais un seul levier. Il faut qu'il soit accompagné par d'autres leviers. Et puis le temps 2, donc qui est parti à la rentrée là en septembre. Cette fois, on a décidé d'envoyer un petit coffret comme celui-ci, dans lequel, toujours sur cette analogie avec le jardinage, dans lequel on trouve deux choses. Un petit carré de pelouse à planter. Voilà, tout simplement. Donc le terreau et les graines. Alors il faut savoir que d'expérience, quand on envoie du vivant, que ce soit des végétaux ou des animaux, parce qu'on a aussi des expériences avec d'envoyer des sphères avec un petit écosystème. D'accord. En fait, les gens ne jettent pas la com.
Et du coup, c'est plus efficace.
Donc ça reste sur le bureau.
Juste pour terminer, parce ça passe très vite le temps. Qu'est-ce que vous retenez vous de cette opération?
Il faut que le mailing soit en volume pour être surprenant, que tout est basé sur le concept. Il faut savoir surprendre sa cible et lui faire vivre une expérience et surtout jouer sur l'émotion.
Et bah, visiblement, vous avez réussi. Merci beaucoup Marie-Ève Saint-Cyr-Jlovy, directeur marketing du groupe Apicil. Merci aussi à Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News, d'avoir été à mes côtés. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Hebdo.com sur BFM Business.
Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leurs stratégies de communication. Hebdo.com sur BFM Business.